mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce mardi 22 avril. Aujourd'hui, on va s'intéresser encore à la disparition de services culturels en direction de la jeunesse, et c'est en la région Nouvelle-Aquitaine que ça se passe. On va parler aussi des remous toujours de l'actualité états-unienne avec la guéguerre, le bras de fer entre les universités américaines et le président Donald Trump. De nouveaux allègements dans les réglementations environnementales aussi de celui-ci. On va parler de l'avenir des eaux minérales Perrier, toujours de plus en plus en danger, en tout cas de ne plus s'appeler eaux minérales naturelles. On prendra des nouvelles de ce qui se passe du côté de la Serbie. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour un petit peu des gros titres, mais il y en aura d'autres aussi, des petites brèves. On part donc tout d'abord en Nouvelle-Aquitaine avec cette nouvelle qui a fait peu de bruit, en tout cas dans les médias, et qui a été relayée par pas mal de réseaux sociaux, notamment à travers une lettre dont je vais vous faire l'écho de quelques extraits. Et donc c'est passé au début de ce mois d'avril, hein. C'est plusieurs établissements scolaires qui proposent des options artistiques facultatives pour les élèves dans la région Nouvelle-Aquitaine. Donc ils ont reçu l'information que justement ces options artistiques ne seraient plus subventionnées à partir de la rentrée prochaine par la DRAC. La DRAC, c'est la Direction Régionale des Affaires Culturelles, qui est rattachée au ministère de la Culture et qui distribue donc une partie des subventions permettant notamment des actions avec des artistes extérieurs à l'établissement. Ça signifie donc que les partenaires culturels de ces lycées ou collèges ne pourront plus participer à ces programmes dès la rentrée, et toutes ces personnes ont été prévenues uniquement de manière informelle. Il n'y a pas eu vraiment d'annonce officielle. Ce sont donc plusieurs témoignages qui ont permis de recouper ces informations. C'est France Info notamment qui a relayé cette actualité il y a une semaine. La DRAC Nouvelle-Aquitaine n'est plus en mesure de financer l'emploi d'artistes, donc que ce soit des comédiens, des metteurs en scène ou des artistes plasticiens. Ces artistes accompagnent les lycéens dans le cadre des options artistiques facultatives. C'est notamment à partir de la classe de seconde qu'on peut avoir accès à des options, par exemple option théâtre ou cinéma ou autre, selon les propositions des établissements. En Nouvelle-Aquitaine, on était l'une des rares régions à financer des artistes, car on était en capacité de le faire. D'autres régions ne le faisaient plus depuis plusieurs années, explique d'ailleurs la DRAC auprès de France Info, qui a donné quelques éclaircissements. Ces interventions artistiques, que ce soit dans le cadre des options facultatives ou des enseignements de spécialité, seront financées jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours, mais donc ne pourront plus l'être à partir de la rentrée. Si vous n'avez pas d'enfants scolarisés au lycée, peut-être qu'il vous aura échappé que donc depuis la réforme du bac, les élèves, à partir de la première, doivent choisir des spécialités qu'ils garderont ensuite, donc 3 d'abord, puis 2 qui seront présentées pour le baccalauréat. Et il y a donc dans ces spécialités des fois des propositions artistiques. Si c'est la seule région pour l'instant, si cette coupe est effective et de manière totale en Nouvelle-Aquitaine, ce n'est pas la seule région qui subit des coupes budgétaires, vous le savez. La baisse des crédits du programme 361, qui vise à soutenir les projets en matière d'éducation artistique et d'action territoriale, c'est bien une diminution de l'ordre de 15 à 20% pour 2025, une baisse qui touche l'ensemble des régions, explique toujours le ministère de la Culture aux journalistes de France Info. C'est un plan social qui ne porte pas son nom. Ça, ce sont les réactions notamment de Philippe Desmoulins, qui est metteur en scène et délégué régional Nouvelle-Aquitaine pour le Syndicat national des arts vivants. Il explique qu'il va y avoir, suite à cette coupe, une précarisation des compagnies de théâtre, ce qui va mettre en danger des emplois permanents et donc aussi des intermittents qui risquent de ne pas renouveler leur statut parce qu'ils n'auront pas assez d'heures de travail. Ils tomberont ainsi dans les minima sociaux. Au début du mois de janvier, l'État avait déjà annoncé le gel du budget du pass culture collectif. Ce pass culture qui est alloué au financement d'activités d'éducation artistique et culturelle dans le cadre scolaire à hauteur de 50 millions d'euros. Cette enveloppe servait également à financer l'intervention d'artistes au sein d'établissements scolaires. Un témoignage est donné dans cet article. C'est une comédienne qui est partenaire culturelle justement d'un lycée de la région Nouvelle-Aquitaine qui a été informée de ces coupes par un mail de sa conseillère de la DRAC ce 2 avril. « J'étais sous le choc, dit-elle, il a fallu que je relise le mail 3 fois avant de comprendre. Le proviseur m'a assuré qu'il ne voulait pas que l'option théâtre disparaisse. C'est une option qui date d'il y a plus de 30 ans dans ce lycée et qu'il allait donc tout faire pour trouver des financements ailleurs. Toutefois, même si l'option perdure, on aura moins d'heures à consacrer aux élèves, explique-t-elle. » Un autre exemple, le centre culturel La Mégisserie, qui est situé à Saint-Julien en Haute-Vienne, a lui aussi été informé de la suppression de l'intégralité de ses crédits dédiés à l'intervention d'artistes pour l'option théâtre. C'est d'une tristesse absolue de voir des partenariats entre les lycées et l'extérieur s'amenuiser, explique la directrice du centre Laetitia Delpech. Elle y voit une double peine pour le milieu rural, qui ne dispose pas de tous les équipements culturels dont bénéficient les villes importantes. Et ce départ de l'État, pour elle, en dit beaucoup sur un maillage territorial qui s'étiole. Certains enseignants de la région craignent en effet qu'à moyen terme, une suppression définitive des spécialités artistiques pour le bac ne prenne la suite de ces annonces. Une option artistique qui peut être choisie dès la seconde sera peut-être souvent par les élèves transformée ensuite en spécialité en première ou en terminale pour le bac. Les options artistiques amorcent souvent le choix d'une spécialité pour un lycéen, explique le syndicat national des enseignements du second degré. C'est donc tout bonnement une réduction de manière globale des enseignements artistiques qui risque d'arriver dans la suite de ces annonces. De toute façon, cela viendra stopper le travail conjoint d'un enseignant et d'un artiste, puisqu'on ne pourra plus payer les artistes dans le cas des options artistiques. Et si cet accompagnement commun disparaissait, ça signifie donc qu'on délègue à des enseignants, dont ce n'est pas le métier, la tâche de construire des projets artistiques. La rentrée 2025 s'annonce donc très incertaine en Nouvelle-Aquitaine. En concertation avec les 3 rectorats néo-aquitains, donc les académies de Bordeaux, Limoges et Poitiers, ainsi que les structures culturelles qui sont partenaires des options artistiques au lycée, les services de la DRAC participent en ce moment à des échanges pour explorer les solutions possibles permettant de maintenir ces options en collaboration avec d'autres sources de financement chaque fois que cela est possible. C'est ce qu'a essayé de tempérer la DRAC Nouvelle-Aquitaine, donc aux journalistes de France Info. À Montpellier, le syndicat du combat universitaire, le SCUM, avait fait voter au mois de janvier 2024 l'instauration d'un congé menstruel pour l'université Paul Valéry. Celui-ci sera donc bien mis en place à la rentrée 2025. Pour que les règles douloureuses ne soient plus un facteur discriminant dans les études et les examens. C'était le slogan, et c'est par ces mots donc, que le syndicat étudiant, donc le syndicat de combat universitaire de Montpellier, avait fait adopter au début de l'année 2024 l'instauration de ce congé menstruel. Il sera donc mis en place à partir de cette rentrée, et ça signifie donc que les personnes menstruées, que ce soit des étudiantes ou des personnels de la fac, pourront bénéficier de 2 jours d'absence par mois, sans nécessité de présenter un justificatif médical. Et donc, si vous ne savez pas ce qu'est un congé menstruel, c'est la possibilité de ne pas aller travailler ou étudier si on a des règles trop douloureuses. Ces 2 jours d'absence par mois seront plafonnés à 10 jours par année universitaire. Il suffira donc de le mentionner dans un espace dédié sur la plateforme numérique accessible aux étudiants, l'ENT. Et cette avancée, donc, le SCUM aimerait bien l'étendre à l'université de Montpellier de manière générale, puisque pour l'instant, c'est juste à Paul Valéry que ça s'appliquera. Pour l'instant, le président de l'université de Montpellier, Philippe Auger, tient à ce congé menstruel et il tient à ce qu'il puisse se prendre uniquement sur présentation d'un certificat médical. Le syndicat étudiant dénonce, lui, une médicalisation de la question des menstruations. Or, ce n'est pas une pathologie. Et il craint que des médecins ne délivrent pas ces certificats parce que peut-être il jugerait que les douleurs ressenties ne nécessitent pas réellement un arrêt. Une pétition vient donc être lancée pour demander l'élargissement de ce congé menstruel à l'Université de Montpellier, et vous la retrouverez, si vous le souhaitez, en ligne en retrouvant cet article sur les colonnes du média Le Point, Le Point avec un G à la fin.
C'était vraiment très intéressant.
On va à Vergès dans le Gard, avec encore des remous dans les scandales des eaux naturelles de l'entreprise de Perrier, qui appartient maintenant au groupe Nestlé. La commission d'enquête de la cellule investigation de Radio France avait révélé ce 18 avril que des bouteilles de 75 centilitres de Perrier contenaient des bactéries pathogènes de l'intestin. Ces bactéries, donc des entérocoques, je crois qu'on dit, peuvent causer divers symptômes. Ça va du léger désagrément à des maladies graves, hein, selon leur virulence ou la réponse immunitaire de l'hôte. Parmi ces bactéries les plus connues, on connaît bien sûr la fameuse Escherichia coli, qui a été retrouvée dans l'un des forages du site de Vergès en 2024, mais aussi la Salmonelle, Shigella ou encore Klebsiella. Ces bactéries peuvent provoquer des infections urinaires, des septicémies ou voire des gastro-entérites sévères, explique l'Institut Pasteur dans les documents de référence. La gravité de la maladie, je vous le disais, dépend du type de souche, de la voie de contamination et évidemment de l'état immunitaire de la personne qui aura consommé cette eau. Toutes ces bactéries auraient été trouvées le 11 mars dans les bouteilles de l'usine de Vergès, donc à côté ici dans le Gard. Une ligne de production a été mise à l'arrêt suite à cette découverte. Mais le problème, c'est que l'entreprise, qui avait connaissance donc de cette contamination, a attendu 10 jours avant d'alerter l'Agence régionale de santé, l'ARS. Or, normalement, c'est dans les 24 heures qu'il faut faire connaître si on a des résultats de ce type. Ça représente 300 000 bouteilles qui pourraient être concernées par une destruction complète. Et à côté de ce scandale, un excès de germes revivifiables, ce sont des possibles indicateurs de contamination bactériologique, a aussi été noté dans des centaines de milliers d'autres bouteilles, cette fois-ci les petits formats de 50 centilitres. Les bouteilles en question ont là aussi été bloquées. Ça commence à faire beaucoup, donc une nouvelle tâche dans le scandale Nestlé Waters. C'est le nom de l'entreprise Nestlé qui gère les eaux et qui est donc propriétaire maintenant de la marque Perrier. On avait déjà mis en évidence des techniques de purification et de traitement illégaux pour ces eaux minérales en bouteille, qui sont normalement interdites, à savoir des systèmes de purification et de filtration complètement interdits par la réglementation. On avait aussi noté l'ajout de l'eau du robinet, d'ailleurs, dans ces eaux qui sont quand même vendues un peu plus chères. Et le tout avec, a priori, une aide de l'Élysée pour les camoufler. Les auditions sont toujours en cours sur ce volet. En tout cas, pour ce qui est de notre région, le directeur général de l'ARS Occitanie préconise, dans un rapport destiné au préfet du Gard, de retirer le label eau minérale naturelle à l'entreprise Perrier. Et ça devrait donc porter un sacré coup à la suite de cette entreprise et les 1000 emplois notamment qui sont concernés pour l'usine de Vergès. On part aux États-Unis où Donald Trump vient de porter un nouveau coup de poignard à la biodiversité. Jeudi dernier, donc le 17 avril, il a réautorisé par décret la pêche commerciale dans l'un des plus vastes sanctuaires marins du monde. Il s'appelle le Pacific Remote Islands Marine National Monument, donc monument national marin des îles Pacific Remote. On est au beau milieu de l'océan Pacifique. Cette aire marine protégée avait été créée en 2009 sous le mandat de George W. Bush et elle avait été étendue ensuite sous la présidence de Barack Obama en 2014. C'est une aire donc protégée d'une superficie d'environ 1,3 million de kilomètres carrés, c'est à peu près l'équivalent de la taille du Pérou. Cette zone est parsemée d'atolls coralliens et peuplée de tortues de mer et de baleines en danger d'extinction. Donald Trump justifie cette décision donc par sa volonté de défendre les pêcheurs états-uniens qui seraient contraints à pêcher plus au large dans les eaux internationales pour concurrencer des flottes étrangères mal réglementées et fortement subventionnées. Un autre décret d'ailleurs publié le même jour presse le département du commerce d'assouplir les réglementations qui pèseraient sur la pêche et l'aquaculture états-unienne. Il demande également au département intérieur de procéder à un examen de tous les sanctuaires marins afin d'identifier ceux qui pourraient être ouverts à la pêche commerciale. Le Pacific Remote Islands Marine National Monument pourrait donc n'être que le premier d'une longue liste de sanctuaires replacés entre les griffes de la pêche industrielle. Les États-Unis devraient être le leader mondial des produits de la mer. Ça, ce sont les mots du président Donald Trump. Cette annonce a de quoi fortement inquiéter, hein. Avec plus de 11 millions de kilomètres carrés d'océan sous leur contrôle, les États-Unis sont en effet la première puissance maritime mondiale devant la France. Interrogé par le New York Times, le chercheur Angelo Villagomez estime ainsi que la réouverture de ce sanctuaire créerait un dangereux précédent. C'est un cadeau pour les flottes de pêche industrielle et une gifle à la science et aux générations d'habitants de la région qui réclament depuis longtemps une plus grande protection de ces eaux sacrées. Argumente aussi de son côté Max Phillips, le directeur de l'ONG Center for Biological Diversity. 18% de ces eaux états-uniennes sont aujourd'hui interdites aux activités les plus néfastes pour la biodiversité, d'après les données du Marine Conservation Institute. Et 18%, donc ce pourcentage est inférieur à l'objectif qui est fixé par les Nations Unies, qui, elles, recommandent de protéger 30% des océans d'ici l'année 2030. Les sanctuaires marins peuvent à la fois être bénéfiques aux écosystèmes et aux pêcheurs artisans. Pour ces derniers, donc pour ceux qui pêchent à taille non industrielle, ces sanctuaires peuvent être comparés à un placement financier dans la mesure où ils offrent une chance unique aux poissons de se reproduire en masse. C'est ce qu'explique aussi dans les colonnes du New York Times l'écologue marin Robert H. Richmond. Et cette brève a été récupérée, elle, dans les colonnes du journal Reporter. Aux États-Unis, toujours, des dizaines d'universités américaines ont dénoncé l'interférence politique de l'administration Trump. C'était ce matin. On est en plein bras de fer avec Harvard sur la question du gel des subventions fédérales destinées à cette institution prestigieuse. Et dans les universités américaines qui ont signé ce courrier, on peut citer Yale, Princeton ou Harvard aussi. Nous parlons d'une seule voix contre l'ingérence gouvernementale sans précédent et l'interférence politique qui menace l'enseignement supérieur américain. C'est ce que explique cette centaine de signataires pour une déclaration commune qui rassemble des présidents d'universités et des responsables d'associations. Le communiqué a notamment été signé par les présidents de 5 établissements prestigieux, à savoir Brown, Cornell, Harvard, Princeton et Yale, qui sont tous membres de l'Ivy League. C'est une coordination de 8 des universités les plus réputées du pays. Ce lundi, Harvard a attaqué l'administration Trump en justice contre le gel de ses 2,2 milliards de dollars de subventions fédérales, soi-disant, donc parce qu'ils ont rejeté les exigences du gouvernement américain la semaine dernière. Donald Trump, lui, menace d'aller encore plus loin dans ce bras de fer en supprimant l'exemption d'impôt qui est accordée à Harvard. Il accuse l'université de propager haine et imbécilité. L'administration américaine s'attaque depuis plusieurs semaines à ces universités prestigieuses. Elle les accuse d'avoir laissé prospérer l'antisémitisme pendant les mouvements étudiants contre la guerre à Gaza, ce que elle réfute. Le programme alimentaire mondial a déploré aujourd'hui devoir interrompre dès le mois de mai l'aide en Éthiopie, une aide qui bénéficie à 650 000 femmes et enfants souffrant de malnutrition, cela en raison d'un manque de financement. Sans aide d'urgence, ainsi 3,6 millions de personnes n'auront plus accès dans les semaines qui viennent à cette aide alimentaire, donc fournie par le PAM, le Programme Alimentaire Mondial. Le PAM, c'est une organisation onusienne, pardon, et il se voit donc contraint d'interrompre le traitement de 650 000 femmes et enfants souffrant de malnutrition au mois de mai. Il prévoyait en effet de fournir une assistance nutritionnelle vitale à 2 millions de mères et d'enfants pour l'année 2025. En plus de l'arrêt des programmes d'aide sous l'égide de l'USAID, c'est l'agence américaine de développement qui a été décidée par Donald Trump lors de sa prise de pouvoir, plusieurs pays occidentaux ont aussi taillé dans leurs dépenses en la matière. Ces coupes claires donc interviennent alors que l'Éthiopie, ce géant d'Afrique de l'Est d'environ 130 millions d'habitants, est confrontée à de nombreux défis. Une sanglante guerre civile oppose les forces fédérales à des rebelles et celle-ci a ravagé entre novembre 2020 et novembre 2022 la région du Tigré, région au sud du pays, ce qui a fait au moins 600 000 morts. Les armes, pour l'instant, se sont tues, mais environ 1 million de personnes, sur environ 6 millions de personnes avant la guerre, sont toujours déplacées. Des conflits armés ont par ailleurs toujours lieu dans les deux régions les plus peuplées du pays, à savoir l'Amara et l'Oromia, ce qui conduit à l'exil de centaines de milliers de personnes. Les conflits en cours, l'instabilité régionale, les déplacements, les conditions météo extrêmes et les chocs économiques ont laissé plus de 10 millions de personnes confrontées à la faim et la malnutrition, a souligné l'agence, donc le PAM, dans un communiqué. L'Éthiopie fait en plus face à un afflux de réfugiés qui, eux, proviennent de pays frontaliers, notamment le Soudan, qui est lui aussi confronté depuis avril 2023 à une guerre civile, et également des réfugiés du Soudan du Sud, en proie à une instabilité chronique depuis son indépendance. Le pays enclavé de la Corne de l'Afrique est aussi confronté à des épisodes intenses de sécheresse, notamment dans la région Somalie. Malgré donc des besoins toujours croissants, le Programme alimentaire mondial s'attend à recevoir un peu plus de la moitié du financement de l'année dernière pour ses opérations en Éthiopie, donc une coupe de près de la moitié. Cette agence est confrontée à un déficit de financement de 222 millions de dollars entre avril et septembre 2025. Selon un rapport qui a été publié la semaine dernière par l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, l'aide internationale qui est fournie par les donneurs publics a diminué de 7% en termes réels par rapport à l'année 2023. Il s'agit de la première baisse après 5 années consécutives de hausse. Cette diminution est expliquée par l'OCDE par un recul des contributions aux organisations internationales et également par un fléchissement de l'aide à l'Ukraine, une baisse de l'aide humanitaire et une réduction des dépenses consacrées à l'accueil des réfugiés dans les pays donneurs. Allez, on termine ces nouvelles du monde avec un peu de bruit de la rue. C'est en Serbie que ça se passe. Et ce sont des milliers de personnes qui ont fait la fête ce dimanche soir autour du siège de la RTS. C'est la radio-télévision publique serbe qui est toujours bloquée par des étudiants et des citoyens depuis le 14 avril. En ce jour de Pâques, un groupe était d'ailleurs venu en renfort de la ville de Novi Pazar, apportant 3000 petits feuilletés à la viande typiques de la région aux étudiants de Belgrade qui continuent leur blocus des médias. Ça faisait donc ce lundi le 7e jour que la télévision nationale serbe était bloquée. Celle-ci a été obligée d'ajuster sa grille des programmes, les journaux n'ont pas pu être diffusés et elle a déposé plainte contre X. La commissaire européenne à l'élargissement, Marta Kos, a annoncé qu'elle suivait attentivement la situation en Serbie, y compris le blocage de la télévision, et appelle tout le monde à s'abstenir à d'aggraver les tensions. La télévision a expliqué donc qu'en raison des conditions de travail difficiles causées par ce blocus, elle a été obligée donc de revoir sa grille de programmation puisque les animateurs ne pouvaient pas accéder à leur bureau. Les étudiants bloquent ces bâtiments des services publics, donc je vous le disais, depuis le 14 avril au soir. Ils ont déclaré que le blocage durerait jusqu'à ce qu'un nouveau concours de sélection des membres du conseil du REM, c'est l'organisme de régulation des médias électroniques, soit annoncé. Donc ils veulent une refonte des institutions qui gèrent ces médias. A noter d'ailleurs que le 17 avril dernier, des milliers de citoyens ont rejoint donc les étudiants dans la soirée pour ce blocage et l'ambiance est plutôt bonne sur place. Hein. Les DJ ont rejoint le mouvement, l'ambiance est carrément à la teuf. Voilà, de quoi redonner un petit peu d'énergie en cette période morose. Quoi qu'il en soit, on espère que vous allez bien. On se donne rendez-vous jeudi pour d'autres nouvelles du monde sous le soleil des vacances. On l'espère encore que ça va durer. D'ici là, portez-vous bien.
Monsieur, des informations, il y en a plein. Hein. Par exemple, bon, il y en a plein. Hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interviews, communiqués. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Oh, mais que se passe-t-il ? Mais que se passe-t-il ? Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.